Salut Daniel, c'est Marie de Paris. Je suis visiteuse médicale et je voulais te dire que je confirme tout ce qu'on a entendu, tout ce qui a été dit sur la visite médicale dans ton émission. Et je pense même, de mon point de vue, que dans la capitale, c'est encore pire. Les pratiques qu'on voit couramment entre les médecins et les labos sont encore pires. Donc voilà, je te remercie vraiment du fond du cœur que cette chose ait été dite sur sur cette profession. Voilà, merci.
Je suis pédiatre à Bruxelles et je peux témoigner du fait qu'en Belgique, la situation est tout à fait identique. On voit énormément de délégués médicaux, mais c'est pas non plus toujours facile quand ces gens sont dans les salles d'attente de refuser de les voir et de leur dire non, écoutez, parce que vous risquez de m'influencer. Bon, ils ont un boulot à faire et voilà. Mais là où l'influence des firmes pharmaceutiques est sans doute très grande aussi, c'est que dans l'organisation des congrès tout à fait sérieux de sociétés de médecine, eh bien les firmes pharmaceutiques financent en grande partie ces congrès. Et c'est là que toutes les décisions médicales importantes sont décidées, sont prises. Voilà. Merci pour vos émissions et à bientôt.
Bonjour, moi aussi je suis visiteur médical, j'ai écouté l'émission. Bon, c'est un peu partial, hein, mais l'industrie pharmaceutique, elle n'est pas entièrement responsable du trou de la sécu déjà. Les médecins, ils prescrivent parce qu'ils ont besoin de prescrire, de toute façon. Après, il y a quand même un quiproquo, l'industrie pharmaceutique, elle est là pour de l'argent, ça c'est sûr. Bon, il faut elle, mais elle est pas. Il y a pas mal pour moi à faire de l'argent avec la santé des gens, hein, pourquoi? Parce que de toute façon, ils sont soignés, c'est pas un problème, voilà, de toute façon. Il faut bien gagner sa vie et l'industrie pharmaceutique, elle peut le faire mieux, c'est sûr, un peu plus éthiquement, mais quand même, faut pas tout lui mettre sur le dos. Voilà. Au revoir.
Bonjour, j'appelle suite à l'émission de Daniel Mermet sur la visite médicale. Je suis moi-même déléguée médicale depuis 23 ans, donc inutile de vous dire que j'ai bien écouté. Je voulais simplement vous dire, et si on changeait la donne, si déjà les chercheurs, tout ça c'était public, les VM, si c'était dans le public, peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Peut-être qu'on pourrait faire de la vraie information, et ça me plairait bien. Et si c'est pas fait, c'est peut-être que on peut pas compter sur le public, quoi. Hein? Et l'agence du médicament, elle fait quoi, elle, pour la formation des médecins? Là aussi, elle se lave les mains de tout. Hein? Pourquoi pas le gouvernement ferait pas quelque chose pour la formation continue? Et ça, c'est surtout jamais remis en question. Je l'ai jamais vu depuis 23 ans. On le dit, mais on le fait pas. Et puis quand on dit qu'il y a 15 000 délégués, on sait pas trop. Mais tout simplement parce que il y en a qui sont sous le sceau de l'industrie pharmaceutique, d'autres sous l'industrie chimique. Et puis il y a une troisième catégorie. Eh ben oui, c'est de la pub. C'est les agences de pub qui font des délégués médicaux. C'est pour ça qu'on appelle plus ça tout le temps des délégués médicaux. Et les génériques, pourquoi on fait pas d'emblée une diminution du prix des produits puis qu'on arrête ce cinéma des génériques? On embauche des jeunes qui démarrent dans les pharmacies sous-payés, sous-diplômés. On les sert bien pendant plusieurs mois puis après on les dégage, quoi. Et puis les médecins disaient aussi, ben non, les délégués, ça fait pas changer d'avis et ma prescription. Faux, faux, faux. On est dans des relations humaines. C'est pas que de la vente. Moi, mes médecins, moi, je les aime. Ça fait 23 ans que je les aime. Ça fait 23 ans que j'aime mon boulot. Et vraiment, quand on échange des avis, des points de vue avec des médecins, ben oui, la conviction, c'est pas que de la vente. C'est de la relation humaine. Et puis, ce qui m'a choqué, c'est un terme de sevrage de la vie médicale. Bah, ça me choque. Je trouve pas que ce soit une drogue, moi. Je trouve que c'est un beau boulot que j'aime depuis 23 ans. Au revoir, merci.
Sincère les messages nombreux qu'on a reçus suite à l'émission d'hier, au reportage d'hier de Guy Van Til sur les visiteurs médicaux, avec un visiteur médical qui nous a raconté son métier de l'intérieur, tel qu'il le vit quotidiennement. Et avec des visites chez des médecins, le docteur A, le docteur B et le troisième médecin qui lui s'oppose à ces visites. On a pu voir la pression qu'exerce à travers ces visiteurs médicaux, les délégués, comme dit cette auditrice, à travers ces délégués sur les médecins et puis sur nous et cette puissance des labos, hein, le lobby des labos. Mais alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on a beaucoup de visiteurs médicaux qui ont laissé des messages. On a l'impression que les uns et les autres ne sont pas le même métier. Hein, il y en a qui sont très critiques, comme cette auditrice qu'on vient d'entendre. D'autres qui disent, c'est exactement ça. C'est absolument ça. Ce que vous avez raconté, c'est ça. Et d'autres qui disent, mais pas du tout. Vous exagérez. Enfin, c'est très curieux parce que c'est le même métier. On sait très bien que on a pas mal de visiteurs médicaux, évidemment, qui nous écoutent puisque c'est des gens qui voyagent beaucoup et que la radio, c'est un média de la voiture. Hein, donc, on sait très bien que vous nous écoutez. En tous les cas, merci pour ces réactions, encore une fois, riches, précises et très sincères. Alors aujourd'hui, on devait rencontrer Pascal Ducrot, retrouver Pascal Ducrot. Pascal Ducrot, Messi, vous vous souvenez, ce syndicaliste du groupe Le Vert, Messi, Uni Le Vert, des gars qui se sont fait virer à la suite d'un plan social, et puis il y a ce syndicaliste et ses copains d'ailleurs, qui ne veulent pas en démordre. Ils sont toujours dans leur entreprise et ils veulent absolument obtenir, c'est d'abord des indemnités, un reclassement, mais c'est surtout, ils veulent de la justice. Ils trouvent que c'est pas juste d'avoir été viré de leur boîte. Alors vous vous souvenez, Pascal, lors d'une visite du président de la République, Jacques Chirac, à Valenciennes, il l'a rencontré. Chirac, il a dit, mais bien sûr, on va faire quelque chose. Et puis il attend. Et là, il va attendre, lui et ses copains, encore une journée. On va le retrouver seulement demain, parce qu'il faut bien dire que c'est beaucoup d'éléments pour préparer cette émission, un reportage de Thierry Schaff, et ce sera demain. Mais c'est une très bonne occasion, parce que on va, en deuxième diffusion, retrouver Mandoline. Vous avez été tous, on a beaucoup d'échos d'un documentaire de télé sur l'été 44. Et nous aussi, on va retrouver cet été 44 à travers ce témoignage qui, à l'époque, vous avez beaucoup ému. Cette histoire de Mandoline, c'est l'histoire d'une tondue, de ces collaboratrices horizontales, comme on les a appelées. Elles ont été 20 000 femmes tondues à la libération, et près de 60% ont été tondus. On connaît la fameuse photo de Capa prise à Chartres qui résume en un seul cliché, en un seul plan, ce que pouvait être notre France à l'époque. Et donc 60% de ces 20 000 femmes ont été tondues pour avoir été coupables de relations amoureuses avec ce qu'on appelait les boches, les fridolins, les frisé. Et je me souviens de la chanson de Brassens, la première fois qu'a été passée cette chanson de Brassens. J'ai ma médaille à moi, c'est un accroche-cœur, disait-il en hommage à ces femmes tondues. Je me souviens du scandale qui avait été encore à l'époque, je pense que c'était au début des années 60 ou fin, ou non, 62 ou 3, je me trompe peut-être d'une année ou deux, mais pas plus. Et rendre hommage à ces femmes tondues était un scandale à l'époque. Et comparer une médaille à un accroche-cœur d'une de ces femmes, c'était absolument scandaleux. Le temps a passé, mais on est entré là, ces jours qui viennent, dans un remue-mémoire. Et nous y sommes, nous y allons avec Mandoline. Et c'est accroche-cœur. Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Auter, Siegfried et Mandoline.
Flight number 2, arriving from New York.
Écoutez, c'était en août, mais je ne peux pas vous dire la fin août, quoi. En 44.
Vous souvenez précisément?
Ah ben, je me rappelle, oui, parce qu'ils nous jetaient des pierres. Et des pierres grosses comme ça. La marée chaussée nous a accompagnés jusqu'en haut, comme si on allait à l'échafaud. Alors ils nous ont mis sur une chaise et puis avec la tondeuse, hop.
Siegfried et Mandoline, Mandoline et Siegfried. Une histoire d'amour et de gare. On voit la forêt noire, on voit la frontière, on voit les enfants blonds, on voit la valse, l'allemand, le train, la lettre, les adieux sur le pont, le piano de la guerre. Ça fait roman, feuilleton, j'attendrai ton retour, chante Mandoline, comme Rina Ketty et Siegfried, le bel allemand blond qui laisse passer les FFI. C'est ça, à peu près seulement. À peu près, c'est comme un sale point noir qui reste sur la peau de la mémoire malgré le maquillage. Il ressort comme une sale histoire, une histoire moche, l'histoire des tondus. Oui, Mandoline le fut, tondu. On se souvient, Nevers, Hiroshima, mon amour, et la chanson de Brassens qui fit grand scandale à l'époque. 20 000 femmes en France furent ainsi tondues à la libération et avant la libération. On a tous en tête la photo de Capa, la tondue de Chartres. On voit la populace, ce que nous avons de plus bas, le lynchage, le crachat, salope, traînée, paillasse à boche. Oui, les femmes servirent d'exutoire à la haine, à la honte collectivement accumulée pendant ces années. Une histoire passée sous le tapis de l'héroïque résistance, FTP, FFI, qui sauvèrent la France tandis que les femmes étaient humiliées par des hommes frustrés. Siegfried, Mandoline, le temps est passé. Siegfried n'est plus, Mandoline toujours là, a bien voulu nous raconter l'histoire. Elle n'a jamais dissimulé cette histoire, mais en nous la racontant, c'est une grande confiance qu'elle nous fait, qu'elle a fait à Claire Auteuil et qu'elle vous fait. Elle espère que nous saurons tirer les leçons de son témoignage, mais aussi parce qu'elle nous fait comprendre qu'on ne peut pas vivre sa vie sans la comprendre. Elle nous fait comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre dans la vie de n'importe qui, ce qui fait de chacun cet irremplaçable prochain. Brassens a chanté cette chanson de la tondue, il a rendu un hommage. Et cette chanson, je le disais, a soulevé un grand malaise dans notre France, pas toujours aussi douce que chez Charles Trenet. Une page très moche de notre histoire et qu'on a passé sous silence. Un homme pourtant, un poète rare, dans un poème rare, a évoqué les tondus. Comprenne qui voudra, moi mon remords ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable à la robe déchirée. Paul Éluard.
Verzeih mir, wenn es schon spät ist, doch ich ruf dich an, weil ich es gar nicht glauben kann, was du mir schreibst. Soll alles aus sein, ist der Brief dein letztes Wort? Du schreibst mir wörtlich hier, heut willst du fort. Sag mir nicht adieu, sag nur auf Wiedersehen, denn du kannst ja nicht von mir für immer gehen. Einmal kommt vielleicht ein Tag, ein Augenblick, da führt dich der Weg in meinen Arm zurück. Sag mir nicht adieu, sag nur auf Wiedersehen, denn von heute auf morgen kann so viel geschehen. Mach den Abschied kurz, du musst ja gehen. Sag mir nicht adieu. Auf Wiedersehen.
Je suis née dans le Nord-Isère, à 40 km de Lyon, mais sur l'Isère. Ça s'appelle Bourgoin. Et lorsque j'ai eu avec mon frère 4 ans, En 1925, nous sommes partis en Lozère, parce que mon père, il avait été désigné pour aller installer dans ces régions l'électricité, parce qu'il n'y en avait pas, le Gévaudan, toutes les là-bas, les déserts du Gévaudan et tout ça. Et après, il est venu à Grenoble. Nous sommes arrivés en 1939 dans cette maison au mois de mars, et la guerre a éclaté en septembre. Le 39-40, j'avais 18 ans.
Voilà, aujourd'hui, Mandoline, on l'appelle Mandoline, on va l'appeler Mandoline, elle s'appelle en vérité Madeleine, a 81 ans, et elle a bien voulu, elle a voulu raconter son histoire, cette histoire, ce moment particulier de sa vie où elle fut tondue. À la Libération, même avant, je le disais, au total, environ 20 000 femmes furent ainsi tondues. C'est une histoire qu'on n'aime pas beaucoup évoquer. Il y a très peu d'histoires sur cette histoire. Il y a eu le livre d'Alain Brossat, qui l'a intitulé Un carnaval moche, qui date de 1993. Et puis récemment, un livre de l'historien Fabrice Virgili, qui s'appelle La France virile, et qui s'est sous-titré Des femmes tondues à la Libération, et ça c'est une étude très très poussée, très très fouillée, dont l'auteur conclut que ce règlement de compte fut pour les hommes à l'époque une façon de reprendre le contrôle du corps des femmes. C'était pour ces hommes humiliés par ces années d'occupation et de domination le moyen de réaffirmer leur place et d'affirmer, de montrer leur virilité en abaissant les femmes par cette punition sexuée, puisqu'il s'agissait des cheveux des femmes, qui évidemment peut renvoyer, si on veut, un symbole de castration. C'était un rituel qui était vraiment mis en place, une petite estrade sur la place de la petite ville, et puis les femmes traînaient à travers la ville sous les insultes, les crachats. J'évoquais tout à l'heure la fameuse photo de Capa, il y a eu de nombreuses photos. Parfois, on allait encore plus loin, les femmes étaient maquillées d'une croix gammée sur le crâne et sur la poitrine. Qui étaient les auteurs, qui étaient les tondeurs? Fabrice Virgili dit à quel point il lui était difficile, sinon impossible, de retrouver évidemment des témoignages de tondeurs. Et puis des archives, ben il y en a très peu, des traces, il y en a très peu. C'est une image moche qu'on a essayé d'oublier. Mais qu'évidemment, une femme comme Madeleine, elle n'a pas du tout oublié. Voici l'histoire de Mandoline.
J'avais une amie qui travaillait à Aix-les-Bains, là à côté, dans un hôtel. Elle m'a dit, oh là, mais pourquoi tu viens pas? Mais viens, elle dit à mon père, laissez l'avenir travailler avec moi, c'est intéressant. C'était la guerre, mais c'était pas l'occupation, c'était pas occupé encore. Et elle m'a fait embaucher dans l'hôtel avec elle. Et elle était femme de chambre. Et moi, j'étais au service restauration. J'ai appris comme ça sur le tas. Et puis, un beau matin de 42, il est arrivé à l'hôtel un employé de la mairie d'Aix-les-Bains et qui a rassemblé tout le personnel. C'était un hôtel qui était conséquent. Il y avait bien 18 employés. Il a dit, alors écoutez, voilà, c'est l'occupation, les Allemands vont occuper toute la France. Et ils réquisitionnaient les hôtels à Aix-les-Bains. Alors ils nous ont dit, voilà, vous avez le choix, ou vous restez travailler à l'hôtel, mais avec eux, ou alors vous partez en Allemagne. Vous savez, travail obligatoire à l'époque. Et puis il fallait pas broncher, attention, hein. C'est que... Vous avez compris, hein? Bon. Alors, on est restés, nous sommes restés. Parce que de tous ces hôtels, ils en ont fait des hôpitaux. Parce que c'était pendant la bataille de Cassino, en Italie. Et les Allemands, en Italie, à Cassino, ils ont pris la piquette. Et comme il y avait cette bataille, ils avaient réquisitionné tous les hôtels d'Aix-les-Bains, l'hôtel international, l'hôtel de la Cloche, l'hôtel de ci, l'hôtel de là, au bord du lac, c'était tout occupé par eux. Et un beau matin, il est arrivé des trains qui venaient de Cassino. Et ils ont, de tous les wagons, ils ont descendu les blessés, il y en a qui étaient morts, des blessés sur des brancards, et ils ont tout rentré à l'hôtel. Ils m'ont appris à faire des piqûres. les piqûres sous-cutanées, les piqûres intraveineuses et sous-cutanées. Il manquait beaucoup de personnel du fait que c'était presque la fin. Il n'y avait plus d'hommes. Il y avait et tous les hommes, ils partaient à la guerre. Ils les mettaient pas. Alors j'étais quand il y avait des opérations, des choses comme ça, j'allais dans la salle d'opération avec la blouse et le masque, et puis je les voyais scier les jambes des jeunes qui hurlaient, l'anesthésie et tout ça. Et puis alors après l'opération, eh bien on débarrassait, puis on emmenait les jambes et les bras brûlés dans la chaudière. Et moi j'ai vu la bataille de Cassino à l'hôpital, des brancards avec des jeunes de 18-20 ans qui mouraient là dans le couloir de l'hôpital parce qu'ils étaient blessés. Un jour il y en a un qui tendait les bras comme ça, et je me suis approchée, je me suis assise sur le parterre, et je me suis assise à côté de lui, et il me disait « Mouti, tu bis da, maman, tu es là ?» Je disais « Ya, ya, je bin da. Je vais pas mourir. » Je disais « Non, tu es pas... » Puis il est mort comme ça, il avait 18 ans. Et c'est là que j'ai connu Siegfried. Il était adjudant-chef sanitaire. Il y avait une cloche qui a sonné et le patron de l'hôtel nous a dit « Allez, descendez, on vous demande tous en bas. » Moi, je suis descendue. Je suis descendue sur la rampe d'escalier, moi.
En glissant ?
C'est pas vrai.
Si, on était au troisième étage. Et quand je suis arrivée dans le hall, paf, comme ça, je me suis trouvée juste devant Siegfried qui était là avec son chien. J'avais une jupe noire, une petite jupe noire, vous savez, en forme comme ça, et un petit corsage bleu. Alors quand j'ai lâché la rampe, j'ai fait comme ça, il était là. Ah, regardez.
Comment il était ?
Ah ben il était, ben, attendez, j'ai bien une photo là. En 43, il a 23 ans. Il faisait quand même 1m70, oui. Et puis, il était mince, il était blond, les yeux bleus.
Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui tout de suite?
Eh bien, je sais pas, il était... Comment vous dire? C'était quand même... Parce que à l'époque, quand on parlait des Allemands, peu ou prou, on avait peur, hein. Mais là, il avait... Vous voyez ce visage souriant, comme ça?
Ah oui.
Il était comme ça.
Vous vous souvenez le jour où il vous a fait sa déclaration?
Je sais pas. Avec mon ami René, là, on n'avait rien à manger, vous savez. Alors, il nous avait invités un soir avec dont l'ingénieur qui parlait français. Il s'appelait Charles. Didite, est-ce que vous voulez ce soir manger un peu? On aura des côtes de porc avec des frites. Alors, René nous dit, allez, viens, écoute-moi, j'ai faim. Alors, on est allés, tous les quatre. Et puis, ils ont parlé en allemand. Et puis, Karl... Il a dit à René, il parlait bien français, il a dit à René, viens, je vais te montrer quelque chose. Alors ils sont sortis, puis ils m'ont laissé. Et là, Siegfried, il a fermé la porte. Il m'a dit, maintenant, ça suffit, hein. Maintenant, tu es là, tu restes là, hein. Alors, ça commençait comme ça, quoi. Mais j'aurais jamais pensé, vous savez, on est jeune, on est un peu bené.
Qu'est-ce qui vous a plu chez lui?
Je dois vous dire que c'est un garçon et qui était très gracieux. Il était très souriant. Il avait des beaux yeux bleus. Il était, comment vous dire, il était... Et pas comme... moi, j'en ai beaucoup vu parce qu'à Gap, il y avait la commandature. Ils étaient de l'autre côté du boulevard et ils venaient se faire soigner. Il y en a qui étaient malades. C'était dans les SS. Mais ça n'avait rien à voir. Parce que ceux-là, quand ils arrivaient, on voyait vraiment que c'en était. Et je te tape les talons. Que Siegfried, jamais. C'était un monde à part. D'ailleurs, ils ne s'aimaient pas, la Wehrmacht et les SS. Mais moi, avec Siegfried, ça n'a pas du tout été politique. Il me disait, tu sais, il faut pas mettre tous les Allemands dans le même sac. C'est pas parce qu'il y a un Hitler là, on n'est pas comme ça.
que c'est un signe qu'il a là.
C'est le sanitaire, les insignes de la Croix-Rouge. Mmh. Et puis ça, c'est la croix de guerre, parce qu'il était à la bataille de Stalingrad, là.
Ça, c'était l'hiver 42.
41-42. Toutes les familles ont été touchées par la campagne de Russie, la guerre de Stalingrad, la bataille de Stalingrad. Vous vous rendez compte, ces jeunes de 19-20 ans, les moins 60, la nuit.
Pour Siegfried, ça avait été terrible, Stalingrad, les souvenirs.
Oui. Il avait 19 ans. Ils étaient dans les plaines de près de Stalingrad, et il faisait moins 60, il y avait de la neige jusque là.
Jusqu'au ventre.
Oui. Et la bataille avait été très dure, et il y avait des chevaux qui étaient morts. Et pour se cacher des Russes, pour ne pas partir en Russie prisonnier, ils avaient ouvert le cheval et ils se sont cachés dedans, dans les entrailles et dans tout le truc. Et puis un moment après, peut-être 2 heures après, ils ont entendu parler allemand. Et puis c'était vraiment des Allemands qui cherchaient leurs blessés et tout ça pour les rapatrier à l'arrière, qui s'étaient avancés dans les plaines. Parce que les Russes, vous ne les voyez pas arriver, c'était habillés tout en blanc. Tous ceux qui avaient fait Stalingrad, ils avaient la croix de fer. Parce que c'était pas ceux qui, quand ils partaient à l'attaque, il y en avait la moitié qui y restait. Un jour, il y en a un qui tendait les bras comme ça, et je me suis approchée, je me suis assise sur le parterre, et je me suis assise à côté de lui, et il me disait « Mouti, tu bisda, maman, tu es là ?» Je disais « Ya, ya, je binda. Je vais pas mourir. » Je disais « Non, non, tu es pas... » Puis il est mort comme ça, il avait 18 ans.
Mouti, tu bisda. Pas mal pour une fois d'avoir une pensée pour ces combien millions d'Allemands qui sont morts sur le front de l'Est. On sait qu'au total c'est 29 millions de Soviétiques qui sont morts pendant cette deuxième guerre mondiale. Je sais pas combien à Stalingrad lors de cette bataille. L'histoire qu'on raconte, eh ben voilà, ça remonte à 60 ans. La grâce a voulu que Madeleine Mandoline soit toujours là, 80 ans, pour l'évoquer, pour nous raconter cette histoire et comment elle fut avec d'autres femmes du monde, femmes naïvement amoureuses, petites bonnes, victimes innocentes des rancunes et aussi parfois des délatrices. Il faut le dire aussi, des femmes qui furent condamnées à la libération, à être tondues. 20 000 femmes furent ainsi tondues. On le verra, Madeleine nous le dira un peu plus loin, Mandoline va nous le dire, à la différence des prostituées. Les prostituées n'ont pas tellement subi ce châtiment. À l'époque, on considérait qu'il était plus condamnable de donner son corps que de le louer. Mais on n'est pas là, pour l'instant encore, avec son fiancé, son amant, il faut dire les choses, son amant allemand. Eh bien, Madeleine est là, dans cette ville, et un soir, de courageux miliciens viennent faire à Siegfried, le Feldwebel, des confidences. Il y a eu beaucoup de délations durant ces années noires.
Le soir au studio, on jouait aux cartes. Après, il parlait bien français, Siegfried, à leur tour. Et puis un soir, on a frappé à la porte. Et il y a une sentinelle qui est rentrée, qui a dit à Siegfried, Feldwebel, il y a deux Français qui voudraient vous parler. Alors il a dit, bon, ben, fais-les monter. Il m'a dit, Madeleine, mets-toi dans le placard, cache-toi dans la penderie. Et les deux, ils sont frappés, ils sont rentrés. Ils ont dit, on vient vous dire, Feldwebel, on vient vous dire que demain matin, alors ça, mon petit, comme vous êtes devant moi, je l'entends encore.
On vient vous dire que demain matin, vers les 4 heures, il partira de Gap pour aller sur Embrun, un détachement de résistants qui rejoignent un village des Hautes-Alpes. Et à tel endroit, le nom je ne sais plus, un passage, là vous pouvez les arrêter, comme je vous vois, Claire.
Mais pourquoi est-ce qu'ils n'y sont pas allés voir plutôt la SS ?
Ah, ils avaient la trouille. Les SS, ils avaient peur des SS. Malgré qu'ils étaient musiciens, ils avaient peur. Les autres, c'était Hitler, hein, c'était...
Et qu'est-ce qu'il a fait, Siegfried, alors ?
Alors, attendez, ah bon ? Alors, Siegfried a dit, ah bon, ben merci beaucoup, alors c'est demain, oui, demain. Alors, il lui avait donné un papier avec la route, le milicien, les deux. Alors, quand ils ont été partis, il a ouvert la penderie. Il m'a dit, tu as entendu ? J'ai dit, oui, j'ai entendu, oui. Il a dit, ben, ils attendront, hein. Les résistants, ils passeront, il n'y aura personne. Et les résistants, ils sont passés le matin, il n'y avait point de... puisqu'ils n'étaient pas avertis.
Vous voulez me dire que Siegfried a protégé les résistants ?
Il a tout compris, et c'est vrai. Il a déchiré le papier, il a dit, je n'ai rien à dire, moi je ne suis pas SS, ça ne me regarde pas.
Mais il prenait des risques en faisant
ça.
Ah
ben oui, mais il s'en foutait. Et les autres, on ne les a jamais revus, hein. Eh bien ça, ma petite Claire, ça, vous voyez, j'ai entendu ça. Je les ai entrevus parce que j'étais dans le placard. Mais c'est plus dégueulasse que tout ce que vous voulez, ça. Et à l'hôpital, il y en avait un milicien. Il venait tout le temps à l'hôpital pour se faire radiographier, pour s'il avait une grande gueule. Et à la Libération, il s'est couché dans les lits. Parce que les Américains, ils sont rentrés à l'hôpital et il y avait quand même des blessés graves, il y avait des plâtres, il y avait de tout. Et les Américains, ils ont pris tous les malades, ils les ont mis dans leur camion et ils les ont descendus à Marseille. Ils avaient un très grand hôpital à Marseille, les Américains. Ils ont tout emmené. Mais quand ils ont chargé les petits Allemands, quoi, les blessés, il y avait des Gapensais, des résistants qu'ils connaissaient, celui-là. Ils ont dit aux Américains, non, celui-là, non, il reste là. Et quand le convoi est parti, les gars pensaient qu'ils connaissaient ce salopard, qu'ils savaient que c'était. Ils sont dus, il y avait presque tout le village. Ils l'ont tout déshabillé, ils l'ont promené tout nu dans la ville de Gap, et ils lui ont crevé les yeux avec une fourchette. On l'a entendu et quand il a été mort, ils sont venus le jeter devant l'hôpital, devant le porche de l'hôpital. Oui, ça c'était un vrai milicien. C'est suisse, c'est la pendule suisse, elle est vieille comme tout. Attendez. On était toujours avec les bains. Et puis un beau jour, ils ont reçu un ordre. Comme quoi, Siegfried, Karl en question, il devait partir à Gap pour monter un hôpital. C'était en janvier de 44. Et alors, dès que c'est bien, il m'a emmené à Gap. Je suis partie avec eux à Gap jusqu'à la Libération. Siegfried, un matin, il m'a dit, écoute Madeleine, il faut que tu partes parce que maintenant c'est fini pour nous. Et ils étaient déjà à Laval, là, dans l'Indre, vous savez.
Il m'a dit, ça, les Américains?
Les Américains. Il m'a dit, il faut que tu partes parce qu'il va y avoir des embêtements.
L'histoire de Mandoline, l'histoire de Siegfried avec le temps qui passe. Aujourd'hui, Madeleine a 81 ans. Ces histoires s'estompent petit à petit, jaunissent, s'éloignent et restent ronds longtemps sans doute entre les pages des albums de nos mémoires, de ces années noires dont on parle moins. Ces temps-ci, on a, croit-on, avalés, digérés, ça y est, nous sentons un peu plus apaisés vis-à-vis de ces années-là. Sauf cette histoire dont on est peu fier, dont notre inconscient collectif est peu fier, d'avoir tondu 20 000 femmes à la libération. Et quand je dis la libération, c'est souvent avant la libération que ces tontes ont été entreprises, et souvent, je le disais, par d'héroïques résistants, des gens, des FFI, dans les maquis, des FTP. Bien sûr, à la libération, ça a été surtout le fait de ces gens, de ces miliciens, ou devenus résistants de la dernière heure sur le tard. Mais il faut savoir tout ça, il faut reconnaître tout ça. Le temps nous y autorise aujourd'hui.
Nous étions dans le train, puis ils étaient 4 ou 5, ils sont venus vers nous, ils nous ont fait lever des banquettes, puis ils nous ont dit « allez, suivez-nous ». Et ils ont fait arrêter le train à La Mure, là c'est un village à 50 kilomètres, et ils nous ont fait descendre. Alors moi qui fréquentais le Fédébel, et puis une autre qui fréquentait un cuisinier, et puis une qui était au bordel à Gap, une jeune femme qui était au bordel. Mais elle a été très gentille, elle m'a toujours protégée, elle a été gentille avec moi. Alors ils nous
Comment
ont...
ça, elle vous a protégée?
Eh bien, parce que les filles, moi, ils m'ont tout volé, ils nous ont arrêtés, puis ils nous ont tout volé. L'argent, ils m'ont tout pris, mon argent. J'avais une photo comme ça, avec Siegfried dans mon sac. Ils l'ont déchirée, me l'ont jetée par la figure, en me disant, regarde ton boche, ce qu'on en fait. C'était les vacances encore, oui. Ils nous ont amenés dans l'école, parce qu'à l'époque, la rentrée des classes était le 1er octobre. Et là, je suis restée 3 semaines, 1 mois. On était 7 ou 8. Ils nous donnaient rien à bouffer, qu'un café au lait le matin. Et puis, ils venaient nous interroger. Et puis, et là, ils nous interrogeaient pour savoir. Et puis, ils ont fait des recherches. Et puis, quand ils ont vu que moi, j'étais pas inscrite à point d'endroit, ni à la Gestapo, ni à la commandature, qu'on me connaissait même pas à la commandature et tout. Alors ils ont dit, bon, ben c'est une histoire d'amour, on va pas s'arrêter là-dessus. Ils m'ont lâché comme ça. Et c'est eux qui m'avaient tellement enquiquiné, qui m'ont ramené là chez moi. Et puis alors quand je suis arrivée là, bon, ben j'avais déjà plus de cheveux, hein. Alors je sortais pas, je restais là-dedans.
À vous, votre père vous a parlé quand il vous a vu avec la tête rasée comme ça?
Ah, il n'a pas pu parler, vous êtes pleuré. Ah, j'ai jamais vu un homme comme ça. Pourtant, c'était un dur à cuire, hein. Jamais. Ça m'était toujours resté.
Oui. Mais, Mandoline, vous étiez enceinte à ce moment-là?
Oui, bien sûr. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 3 mois. 3 mois et demi par là.
Et vous, quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction?
Pas mal. J'étais jeune et bête, mais j'étais contente. Et ma mère, elle était allée chez un grand coiffeur là, de Grenoble pour m'acheter une perruque, je me rappelle toujours. En 1944, elle avait payé la perruque 30 francs. Vous vous rendez compte?
C'était beaucoup d'argent.
En 1944? Il y a 57, 8 ans, vous vous rendez compte, 30 francs. Eh bien, depuis que j'ai eu les cheveux tendus comme ça, j'avais donc 28 ans, eh bien, j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux.
Vous étiez combien de femmes?
Deux, avec celle-ci, là, toutes les deux, ils nous ont tombés le même jour.
Avec la prostituée?
Voilà. Ils venaient, ils vous racontaient que des inepties. On a pris des renseignements. Ah bon? Mais ton frère, on le sait où il est. C'est un chef au Glaisin, là-haut. T'as pas honte? Ton frère, au maquis du Glaisin, qui est un maquis qui était renommé pour... Et toi, salope. Et la fille du bordel lui avait dit, pauvre con, dans une famille, il faut tout. Que tu nous emmerdes. Hein, pauvre connard. Tu sais pas que dans une famille, il y a toujours un canard boiteux. Tu voudrais bien te l'envoyer, hein, le petit canard boiteux, là, mais il n'est pas pour ton cul. Oui, mais je te jure. Parce qu'ils avaient pris ma photo, j'avais ton père en uniforme, ils avaient ouvert tout mon sac, ils m'avaient pilé. Ah, c'est celui-là, hein, ben oui, là, un militaire.
Alors, oui, surtout que Madeleine, vous étiez vraiment une belle plante.
Oui, hein. Oui, j'étais... Alors, attendez, alors la fille, là, il avait la photo. Alors, il disait, ta parente, hein, tiens. Alors la fille, elle disait...
La prostituée.
Oui. Elle lui disait, mais t'as vu ta gueule? À côté de la gueule de lui, là. Tu l'as vu, ta gueule? Eh ben, ça craint pas qu'elle aille se coucher avec toi, t'es bien trop moche. C'est drôle, hein, il y a 57 ans. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'a plu chez ce boche? Il l'avait en velours. Alors, moi, je disais rien. La prostituée, elle disait, oui, et c'est la première fois qu'elle envoyait une en velours. Mais elle m'avait soutenue. Je la reverrai, cette femme, elle était morte. Hein. Elle avait 7-8 ans de plus que moi. Hein. Et elle m'avait pris sous son aile, vous voyez.
Et elle travaillait dans un bordel.
Mais oui, à Gap. Ben, elle travaillait au bordel. Puisqu'elle disait, espèce de con, faites perdre du pognon. Mon cul, il est international. Aujourd'hui, je serai avec les Américains. Est-ce que j'en ai à foutre de votre connerie? Ah oui, ça j'ai vécu, hein, attention. Hein. Alors c'est là qu'elle leur disait, vous me reprochez quoi? C'est mon métier. Hier, c'est les Italiens, elle lui a dit. Les Italiens. Et aujourd'hui, les Américains, si j'étais pas là. Ce qu'elle nous avait dit. Elle avait mis, mais puis alors quand elle est passée devant le colonel, est-ce qu'on va me fusiller? Alors il rigolait, il avait... La cinquantaine, à côté de nous, c'était un vieux. Il me dit, non, on ne va pas vous fusiller. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Je lui dis, oui, mais vous excitez, là, hein, colonel, hein. Vous leur dites deux mots, hein. Parce que, il y en a marre, hein. Et puis, la petite, là, ils font que l'embêter, hein. Parce que ce petit con, là, celui qui a pas de dents, là, il disait, si vous pouvez se l'envoyer, la petite, il n'y manquerait pas, hein. Le colonel m'a dit, on va vous mettre dans un camion, puis vous rentrez chez vous. Ils m'ont lâché comme ça. Et on s'est séparés. Après, ben, ils nous ont entendus toutes les deux. Hein. Quand on s'est quittés, je lui avais pleuré. Je lui avais dit, écoute, on s'est rencontrés, mais je te demande pardon. C'est à cause de moi que tu... Parce que moi, j'en avais eu qu'un, allemand. Elle avait tout le truc. Hein. Elle m'a dit, mais je t'en veux pas. Mais tu vas pas pleurer pour ça, j'en ai rien à foutre. Je m'achète une perruque. Moi, dans 3 mois, j'aurai la cause. T'inquiète pas, ça m'empêchera pas de travailler. Ils nous ont tendus sur la place publique, à la mur, sur le parvis de la mairie, un dimanche matin. Et quand on passe là, dans ce village, dans ce pays-là, eh bien moi, je regarde pas. Je suis dans la voiture, je ferme les yeux le temps qu'on traverse le village et surtout devant la mairie. Voilà, je préfère pas. Ben oui, babé, mets-toi ma place.
La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tendu le crâne rasibus. Son penchant prononcé pour les ichlibediches, pour les ichlibediches, lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiches. Les braves sans culotte et les bonnets phrygiens, et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse. Elle eût été tendue, elle eût été tendue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière. Je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière.
Alors en 1964, Georges Brassens chantait cette chanson qui fit beaucoup de bruit à l'époque. Et disait comment cet accroche-cœur était sa légion d'honneur. Les choses ont bien changé, les hommes courent aujourd'hui après des légions d'honneur, des vraies légions d'honneur, ça paraît désespérant, mais c'est ainsi. On retrouve Mandoline, donc cette femme qui fut tondue et qui a le courage aujourd'hui de raconter, parce qu'après tout, elle aurait pu se faire oublier, voilà. Mais elle éprouve le besoin, comme une nécessité de témoigner de ce qui a été, de ce qui est évidemment une terrible injustice, et qui permet aussi de montrer le chemin parcouru depuis cette longue émancipation de la place des femmes dans notre société. En même temps qu'on tondait les femmes en 1944, en même temps on leur octroyait le droit de vote. Dans les années qui ont suivi, c'était plutôt retour au foyer, hein, sur l'idéologie communiste et catholique de l'époque. Il faudra attendre le planning familial, le contrôle des naissances, etc. Toute une histoire qui continue aujourd'hui. Cette émancipation est en cours. Mais la mémoire de Mandoline contribue à montrer ce chemin parcouru.
C'était en août, mais je ne peux pas vous dire la fin août, quoi, en 1944.
Vous souvenez précisément?
Ah ben je me rappelle, oui, parce qu'ils nous jetaient des pierres, et des pierres grosses comme ça. La marée chaussée nous a accompagnés jusqu'en haut, comme si on allait à l'échafaud. Alors ils nous ont mis sur une chaise, et puis avec la tondeuse, hop. Et puis il y avait toute la foule qui était là, qui hurlait, sale poche, salope. J'ai pleuré, mais ils n'ont pas vu quand j'étais comme ça et que je voyais mes cheveux qui tombaient. Parce que j'avais les cheveux, attention, hein. Les cheveux qui tombaient. Et les cheveux, ils les ont mis dans un papier, comme ça, ils les ont jetés par la figure. J'ai repris le papier, j'aurais foutu par la gueule. Tac, j'ai dit, gardez-les. En souvenir, paf, là-haut, sur l'escalier. Et puis là, les gendarmes nous ont ramenés dans l'école.
Il y avait beaucoup de foule autour.
Oh, il y avait tout le village. C'était glamour, il y a quoi?
Oui, c'est beaucoup. Oui, ouais.
Et puis c'était l'attraction de la libération. C'était l'attraction. Encore, on a eu de la chance, hein, qu'ils ne nous aient pas foutus à poil, hein, parce qu'ils en promenaient toutes nues et ils les tendaient nues. Mmh. Et nous, ils ne nous avaient pas déshabillés. Mais oui, oui. Mais nous, les gendarmes, ils nous avaient bien protégés. Moi, il y en a un, il me tenait le bras. Il me disait, je me rappelle, reste à côté de moi, baisse la tête, dis rien. Baisse la tête et dis rien, ça va être fini. Je vais vous dire clair. D'en reparler comme ça, ça me traumatise maintenant. Je ne veux plus en entendre parler.
C'est vous, là?
Eh oui.
Qu'est-ce que vous êtes jolie.
Ah ben oui.
Oh,
et puis ça, c'est donc...
Ravissante. Alors, vous avez une jupe à pois.
Oui, rose et blanche.
Rose et blanche.
Rose à pois blanche. Et puis...
Avec un beau bouquet.
Un beau bouquet. Ah ben attendez, je vais vous faire regarder, petit. La petite Claire, voilà.
Bon, c'est quoi, ça?
C'est les deux œillets du bouquet.
Oh, c'est votre bouquet de mariage. Et vous avez gardé deux petites fleurs,
49.
Là.
Alors, 49, il a combien, là?
Le bouquet, il a 49, quel âge?
49, 52, 80, 52 ans.
52 ans, les deux petites fleurs, là.
Touché, elles sont 52 ans.
Oui. Oh, vous avez un très beau sourire.
Alors là, j'ai donc 49, j'ai 28 ans et c'est écrit 29.
C'est
lui qui a écrit ça, c'est lui qui a fait l'album.
Ah oui. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, lui, en Allemagne?
Il travaillait dans un journal. Il était au service de l'expédition. C'était difficile à l'époque, hein. Puis c'était tout cassé, hein. Moi, je suis arrivée en 49, il n'y avait rien du tout, hein. Il n'y avait que des cabanes en bois, que des magasins en planche. Ils avaient encore l'étiquette d'alimentation, hein. Et puis Munich avait été quand même bombardée, hein. C'était très abîmé, hein. Il n'y avait pas une famille que j'ai connue en Allemagne, moi, qui n'avait perdu un membre pendant cette guerre. Un mari, un fils, un frère, un fiancé, un enfant. Je suis restée 6 ans. Ils n'ont jamais parlé de la guerre. Jamais. Même entre eux, ils n'ont pas. C'était une mauvaise période de leur vie à tous. Et ils n'en parlaient pas. Et bien, regardez les cheveux, là.
Des cheveux superbes.
C'est après la tonte, ça. Oh, Dieu. Vous voyez, 44, on est en 49, ça faisait 5 ans.
Oui. Vous êtes en train de vous regarder dans un miroir.
Dans la glace, oui.
Il est penché sur vous. Vous êtes, oui, oui, oui. C'est une belle photo. Vous êtes en maillot de bain tous les deux,
oui,
à la piscine.
À la piscine.
Et puis il vous brosse les cheveux.
Oui, oui.
Mais comment ça, pourquoi vous êtes séparés? Parce que vous êtes séparés avec Siegfried.
Ben oui, mais je ne pouvais plus vivre là-bas. Je ne pouvais plus vivre. J'ai pris la Heimweh, j'ai pris le mal du pays. J'ai plus pu, je pouvais plus. J'ai pas pu bien m'habituer parce que c'était un autre genre de vie. Il aurait fallu qu'on vive en Alsace. En Alsace, on se serait jamais quitté. Et puis il est mort à 59 ans, un cancer foudroyant. Et il est mort le 16 août. 59 ans. Enfin voilà.
Merci Mandoline, merci pour cette histoire, l'histoire de Siegfried et Mandoline. Merci aussi à Elisabeth. Je rappelle le bouquin de Fabrice Virgili, La France virile, les femmes tendues à la libération, c'est chez Payot. Et puis pour plus d'informations, vous avez le site de la Basse J'y suis, que vous trouvez en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Edwin Caron, Olivier Daligo et Anne-Laure Cochet. Koyen Guyen, c'est la musique. Christophe Imbert, c'est le répondeur, c'est-à-dire le 01 56 40 37 37. Et c'est Pascal Le Pascariello qui est notre assistante. Et c'est Antoine Chaot qui a réalisé cette émission modeste et géniale. La preuve.
On est licencié.
Bonjour, ça va?
Très bien. On est licencié.
Présidence de la République. Nous vous prions de bien vouloir patienter. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter.
Voilà, jusqu'à demain, 17h, pour la base J'y suis, vous en saurez plus sur ce qui se passe à la présidence de la République. Bonne soirée à tous, je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon, salut.